Alors bonjour, bonsoir et bienvenue à l'émission Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste L'Atelier. Mon nom est François et je suis en compagnie de...
Jeannie.
Salut Jeannie.
Salut.
Et donc aujourd'hui on va parler encore des grèves étudiantes pour faire un changement. On va parler des mobilisations qui s'en viennent. On va parler on va revenir un peu sur la manif du 22 mars. On va parler aussi de la manif familiale. On va avoir un beau vox pop là-dessus. On va parler de on va avoir un calendrier, puis on va avoir on va peut-être même avoir un poème si on a le temps, un poème parce que l'UCL se lance dans la poésie. Et toi, Jeannie, qu'est-ce que tu vas nous offrir?
Nouvelle locale, c'est le nouvel archevêque de Montréal qui est pas un ami des gays puis qui est aussi contre l'avortement. Bref.
La routine.
Un représentant de l'idéologie normale de l'Église catholique. Berlin qui veut interdire le parti néo-nazi, MPD, ce parti néo-nazi allemand. Oh, problème technique. Puis aussi à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie qui a définitivement adopté un projet de loi homophobe. On va en parler plus en détail tantôt.
Super. Donc, pour l'instant, on va écouter une pièce musicale. On va écouter, pourquoi pas, une pièce de mise en demeure, une pièce de circonstance qui s'intitule « L'anti-émeute arrive ». Vous êtes à Sequoia 88.3.
L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive, la 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 la. L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive, la 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 la. OK, tout le monde, on s'est rassemblés pour discuter de ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'ateliers organisés. Je me propose pour prendre des tours de parole. Et puis, selon vos allégeances, appelez-moi président, appelez-moi animateur. Hey, wow, 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 c'est quoi cette histoire-là? Des hosties de tours de parole. On va marcher par le respect. Moi, je vais parler, puis toi, te la fermer. En passant, monsieur le président, avec tes airs de solidaire, est-ce que tu serais droite? Est-ce que tu serais un dictateur, un policier ou un agent infiltré? L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive, la 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 la. L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive, la 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 la. Bon là, on a discuté toute la journée d'hier à propos d'un protocole de fer. Ce serait full bon pour notre image. Ben oui, de toute façon, on prévoit être sage, la communauté. Et derrière nous, c'est pas le moment de faire les fous. Hey, il m'a tant grissé une folie d'en face. On a le momentum, on est la masse. Ton protocole, c'est de la soumission. On va y montrer à l'administration. Moi pis Steve, en passant, c'est un nom de code. On a volé une caisse de bottes. S'il vous plaît, ramenez-moi les vides. Je les récupère, envoie la table. L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive. La 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 la. L'anti-émeute arrive, la 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 la. Hey! Wow! Wow! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Y'a du monde qui vote pas, pis qui participe pas. Ils fabriquent des balles de peinture pour notre image, qu'est-ce que ça fait dur? On n'est pas décidé si on va rester, mais les barricades sont déjà montées. La police vient juste de m'appeler. Ils sont bien fâchés, y'a des gars masqués. Hey, vous autres, bande de moutons, ça fait 4 heures de délibération. Et d'après Mao Tse-Dong, c'est pas de même qu'on passe à l'action. Il faut du monde pour bloquer les portes. On veut au moins une police à bord. L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive, la 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 la. L'anti-émeute arrive, l'anti-émeute arrive, la 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 la. Les barricades sont endommagées. Y'a des bâtons, ils vont le payer.
Dans un bâton, on pourrait s'enchaîner. T'sais, citoyens, ça devrait marcher.
Les molotovs sont préparés. Ça va chauffer, on va gagner.
Hey, c'était une bien bonne idée de s'enchaîner, non?
L'anti-émeute est là, l'anti-émeute est là, la 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 la. L'anti-émeute est là, l'anti-émeute est là, la 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 la. L'anti-émeute est là, l'anti-émeute est là, la 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 la.
Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début.
ce n'est qu'un début.
Vous écoutez Voix de fer.
Sinon, mange-toi aussi vite dans l'assiette. Sinon, pas de dessert. En pénitence dans ta chambre.
J'aime pas ça qu'il y a dans mon assiette.
C'est bon. C'est moi qui ai fait ça pour vous autres.
Donc, on vient d'entendre la pièce de mise en demeure, L'anti-émeute arrive, qui est leur gros hit, croyez-le ou non. Et là, Jeannie, tu faisais remarquer que ça ressemblait à...
Ah, quand on écoute les paroles du couplet, ça a l'air d'être une chicane entre des membres défédés puis les membres de la classe.
C'est ça, ceux qui veulent s'enchaîner puis faire des affaires plates puis ceux qui veulent pitcher des cocktails Molotov.
Parce que alors, là, les moyens de pression, des nouveaux moyens de pression des membres de FEDE, c'est de faire du gossage du député pour leur enlever des votes. Mm. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va y avoir des élections. Puis au début, ils faisaient du bénévolat.
Donc bravo, félicitations aux FEDE qui renouvellent leur tactique de pression sur le gouvernement et qui s'en vont plus en plus médiocre au lieu de s'améliorer. Mais sinon, mise en demeure, je vous révèle en primeur qu'ils vont être là le cabaret du 1er mai à Québec. Pour le grand show pour la fête des travailleurs et travailleuses à Québec. Ça va être à l'ajouter. Et puis, il va y avoir beaucoup de plaisir. Comme à chaque année, mettez ça sur votre calendrier de suite. Sinon, peut-être pour revenir, ça nous faisait peut-être penser à la manifestation du 22 mars dernier. Plus grande manifestation de l'histoire du Canada. Pas seulement du Québec, mais bel et bien du Canada. On parle de 200 000 personnes. Et le camarade Stéphane me faisait remarquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de casse. Hein? Les éditorialistes disent « Ah, c'est extraordinaire, les étudiants sont sages maintenant, il n'y a pas eu de casse. » Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ben, c'est tout simplement parce que les étudiants et étudiantes étaient trop nombreux et les flics avaient la chienne. Donc, ils ne pouvaient pas provoquer de la même façon qu'ils le font aussi facilement, par exemple, dans la manif du COBP, quand ils sont 5000. Ils peuvent s'amuser à pitcher des bonbonnes de poivre de Cayenne, mais c'est pas possible dans une manif de 200 000 personnes.
Mais il y avait aussi des gaunes des fédérations étudiantes, là, du monde qui était dans le contingent du CL, qui ont dit qu'ils se faisaient frapper à coups de bâton par des personnes défédées. Donc,
le service d'ordre défédé qui était là aussi.
Qui a fait le même job que la police aurait pu faire, finalement.
Mais il ne faut pas oublier que les manifestants masqués y étaient là, mais tout est resté dans l'ordre parce que les flics avaient la chienne. Aujourd'hui, la classe a sorti un communiqué de presse par rapport aux prochaines mobilisations. C'est le communiqué titre « La classe appelle à une mobilisation générale contre le gouvernement libéral ». Alors, suite à la plus grande manifestation de l'histoire du pays, les associations étudiantes de la classe réunies en fin de semaine en congrès ont déterminé la suite du plan d'action de la grève. Elles en sont ressorties gonflées à bloc après avoir convenu d'appeler à une mobilisation générale contre la hausse des frais de scolarité. Et là, c'est intéressant parce que c'est pas seulement un mouvement d'étudiants et étudiantes, parce que samedi prochain, il va y avoir des grévistes de partout au Québec qui vont aller vers Alma pour aller rejoindre les travailleurs et les travailleuses qui sont locatés de Rio Tinto Alcan, de l'usine Rio Tinto Alcan. Alors vraiment, ça va être une grosse manifestation internationale de solidarité. Donc, les étudiants étudiantes et les travailleurs travailleuses ensemble. Donc, la grève s'étend. C'est quand même très intéressant comme action, samedi prochain. Et Gabriel Nadeau-Dubois, qui est le porte-parole de la classe, a dit, je le cite, « La hausse des frais de scolarité s'inscrit dans un contexte politique beaucoup plus large. » Il a même dit avant que c'était une lutte de classe, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes d'autres actions qui s'en viennent, notamment un grand forum populaire le 9 avril prochain à Montréal. Alors, c'est pas rien. L'ensemble des organisations de la société civile et les citoyens et citoyennes sont conviés à cet événement historique. Donc là, encore une fois, on cherche à élargir le mouvement, le faire sortir du milieu étudiant. Et il va y avoir d'autres actions nationales cette semaine. Notamment le 2 avril, il va y avoir une grosse manif nationale à Sherbrooke. Et le 4 avril, il va y avoir une journée de manifestation régionale coordonnée. Donc, d'ici là, évidemment, les actions locales se multiplient. Et à Québec, notamment, là, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de dérangements, toutes sortes de petites actions. On espère que ça va déranger, hein, parce que c'est le fun, les actions sur le campus, là, mais c'est le fun de sortir un peu, peut-être, d'aller peut-être visiter, je sais pas, des députés libéraux, par exemple. Ça serait peut-être une idée. Sinon, à Québec, il y a eu aussi récemment une manif familiale, le 18 mars dernier. Grosse manifestation à Québec qui a commencé au cégep
Limoilou.
Et puis, le camarade Stéphane qui a fait un vox pop de cet événement-là. Et là, il a tenu à dire que... Là, bon, il a fait un montage avec ça et on va le faire jouer. Et il a fait aucune censure, les camarades Stéphane. Il a pas fait de tri. Il a pas monté là, pour mettre juste les bouts où les gens ont l'air de des radicaux dangereux. Ça a donné de même. Il a pas fait de tri, il a pas fait de choix. Il a seulement coupé ce qui se répétait. T'sais, s'il y en a un qui a dit faut monter les impôts, ben il en a gardé rien qu'un qui disait ça. Mm. Et il a posé 5 questions. Pourquoi êtes-vous ici? Êtes-vous pour la gratuité? Qui devrait payer pour l'éducation? Avez-vous déjà participé à des grèves? Et, mais après tout ce qui s'est dit dans les médias récemment, craignez-vous la présence des anards dans les manifs? Et donc, on va écouter ce que ça donne. Ça dure 17 minutes. Un petit vox pop du camarade Stéphane.
C'est Isabelle Gascon, je suis de Trois-Rivières. Je suis mère de 7 enfants, dont 4 universitaires et 3 qui s'en viennent. Nous, en tant que parents, on est directement concernés, mais je pense que toute la population est concernée. Tous les universitaires, on en a besoin au même titre que tous les autres gens formés dans la société. Alors, tout le monde doit être traité également.
Marc Saint-Pierre, j'en ai marre de la démagogie de Charest sur la fameuse notion de juste part, qui arrête de bourrer ces minières de centaines de millions de dollars en subventions, en coûts d'électricité à moitié du prix coûtant, puis faire des routes à 330 millions pour des mines de diamants milliardaires. C'est pour ça que je suis là.
C'est Marlène Fidibert, puis je suis auxiliaire familiale en maintien à domicile. J'appuie la cause des frais de scolarité. Là, je suis contre la hausse des frais. Ouais.
Et Joanne Boutette, Limoilou. Je suis intervenante communautaire en santé mentale.
On l'a fait nous-mêmes dans les années 80. On trouve ça aberrant qu'on soit en train de se rebattre encore pour les mêmes choses. Puis moi, en tant que contribuable, ben, je veux vivre dans un Québec où les gens seront scolarisés, peu importe leur provenance sociale.
Sébastien Lacombe. Eh oui, professeur en philosophie. J'appuie une mobilisation pour une réflexion sur un projet de société. Donc, je considère que la mobilisation actuelle est favorable à une discussion qui manque terriblement dans notre société. Et donc, j'encourage ça.
Je m'appelle Pierre-Joël Brunemère, je suis enseignant. J'ai des enfants qui sont en âge, une fille qui est en âge d'aller à l'université l'année prochaine, puis une plus jeune fille qui a 5 ans. Donc, j'essaie de faire en sorte que l'avenir soit plus ouvert que fermé pour mes enfants.
Jacques Tousignan. Moi, j'ai été dans l'éducation toute ma vie. La diminution de l'accessibilité déjà est sensible. Dans les universités, les frais afférents, par exemple, qui deviennent de plus en plus importants. Il y a des milliers de Québécois, en particulier en dehors des villes où il y a des universités. Alors, il y a des milliers de Québécois, des parents puis des jeunes qui vont se dire « j'irai pas à l'université, c'est pas pour moi, ça n'a pas de bon sens, m'endetter comme je vais avoir à m'endetter ». Il va y avoir aussi beaucoup de jeunes qui vont hésiter à envisager des programmes de maîtrise et de doctorat. Alors, c'est vraiment rendre impossible la réalisation de rêves pour beaucoup de jeunes, mais également comme société, on se prive d'un accès généreux à des bonnes études universitaires que les jeunes peuvent choisir au niveau qui leur convient dans les disciplines et les professions qui leur conviennent.
Et moi, mon nom, c'est Lise Côté, je suis professeure de sociologie au Cégep Limoilou. Je sais un peu de quoi on parle ici, là. J'ai moi-même été étudiante et si j'avais pas eu un accès facile et aux prêts et bourses et aux études universitaires, je serais pas ici aujourd'hui.
Marie Rancourt, je travaille pour la Centrale des syndicats du Québec.
Ben moi, je travaille dans le milieu de l'éducation aussi. Je trouve que l'éducation, c'est pas une marchandise de consommation. C'est vraiment un bien public. Il faut que tout le monde ait la chance de pouvoir étudier. Puis que c'est pas aux étudiants à payer les frais de ça. Ni à leurs parents, d'ailleurs, parce que c'est l'impôt qui devrait absorber ça. Tu sais, c'est le partage de la richesse, là. L'éducation, c'est pas une pinte de lait, là.
Nathalie Brochu, je travaille en informatique. moi, je suis vraiment l'exemple de ce que le gouvernement actuel dit, « Ah, t'as le droit à des bourses, ça va compenser, tout ça. » Moi, je suis la personne qui a eu le droit à des full prêts, full boosts. Je me suis endettée de 32 000 $ avec seulement un bac. Alors, je suis même pas allée au deuxième cycle, là. Fait que j'ai 43 ans. J'ai donné mon dernier paiement le mois passé. C'est quand même incroyable. Fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi faire sa part, là, mais ça fait quand même beaucoup d'opportunités que j'ai pas eues parce que j'étais endettée. J'ai toujours aussi travaillé à temps partiel durant mes études, 20 heures par semaine, même 25 heures. Puis c'était pas assez. Fait que c'est pas vrai qu'en travaillant à temps partiel que tu vas sortir pas de dette.
Mon nom, c'est Fabien Ribaud. Je suis enseignant, premier degré, primaire, élémentaire. La seule option possible, c'est l'accessibilité aux études et c'est la gratuité scolaire de toute façon. C'est même pas une baisse, c'est carrément une gratuité scolaire que je revendique pour l'université, pour le cégep, pour tout. Quoi.
Les dépenses inutiles, si on faisait plus attention à notre administration, il y aurait moyen d'offrir la gratuité à tous les niveaux d'études.
Puis c'est pas vrai que faire payer les étudiants, ça va donner des meilleures universités. En Europe, c'est gratuit. Il y aurait des meilleures universités que nous autres.
Je pense que l'éducation, c'est une richesse collective, puis que c'est là-dessus qu'on doit investir. On est capable de mettre des tonnes de sous dans tout plein de projets qui me semblent beaucoup moins intéressants que ça. Je me sens plus avoir une population scolarisée.
Je pense que c'est un droit que tout le monde devrait avoir, que ce soit ici dans notre pays ou ailleurs aussi, parce que c'est comme ça qu'on peut changer la société.
Puis, tu sais, le ministre prend l'exemple sur des pays comme les États-Unis, mais les États-Unis, là, c'est loin d'être un bon système d'éducation. Puis, il pense que parce que c'est les Américains, tout est beau, mais c'est pas vrai.
Pour les universités, je serais pour une gratuité progressive, mais sûrement pas pour une tarification qui augmente tout le temps. Encore une fois, on l'a déjà laissé aller. On a déjà augmenté beaucoup de 50 %, puis on a laissé les universités ajouter les frais afférents. Et surtout, je voudrais qu'on retourne à une véritable gratuité au primaire et au secondaire.
Par rapport aux chiffres que j'ai entendus, on dit tout le temps qu'on n'a pas les moyens de payer pour ça, mais on n'a pas les moyens de ne pas se le payer. Ça serait très facile de rendre l'éducation gratuite, mais c'est parce qu'on aime mieux donner des bonbons à la big business.
On a souvent l'impression que notre argent ne va pas à la bonne place. Il me semble qu'aujourd'hui, descendre dans la rue pour demander qu'on le mette là où on y croit, ça va de soi.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait récupérer à la base toutes nos ressources naturelles. Après ça, sortir toutes les compagnies qui exploitent les ressources naturelles, taxer énormément les pollueurs et les plus riches pour équilibrer, pour pouvoir financer les services que l'État doit donner à l'ensemble de ses citoyens.
Parce que tout le monde profite de l'éducation. Alors, je pense pas qu'il doit y avoir de classe sociale là-dedans. Là. C'est tout le monde qui a des enfants, puis qui, tu sais, c'est la société en général.
Le beau slogan là, de notre ami Bachand, ben, il peut servir dans beaucoup de cas. Hein? Chacun paie sa part. Hein? Ben, les étudiants, ils payent leur part. Ils s'endettent. Alors, le 300, 350 millions que le gouvernement veut aller chercher avec les hausses, il va les chercher dans les poches d'un groupe de citoyens qui sont parmi les moins riches de la société québécoise. Alors, qu'on répartisse ça sur l'ensemble de la société parce que l'ensemble de la société profite que des milliers et des milliers de jeunes puissent plus facilement aller aux études universitaires au niveau du bac et aussi au niveau de la maîtrise et du doctorat.
Le seul problème qui est actuellement, c'est qu'à l'université, on fait pas mal de recherches, pas seulement de la recherche fondamentale, on fait de la recherche appliquée qui sert essentiellement à des grosses compagnies. Moi, je sais que j'ai pas mal de collègues de travail qui se trouvent être des chercheurs et qui sont payés par l'université. Je trouve ça très étrange. Ils ont peut-être un ou deux étudiants en maîtrise ou en doctorat, des choses comme ça, mais le reste du temps, ils font de la recherche qui va servir finalement à des compagnies privées, quoi.
Moi, je suis la première de ma famille qui a accès à l'université. Il n'y a pas longtemps, dans les années 70 au Québec, c'était une province de col bleu. C'est toute la génération qui a accès à l'éducation qui sont en train de pas le donner à la génération suivante. T'sais, je trouve ça quand même incroyable. T'sais, le Québec a tellement progressé depuis ce temps-là grâce à l'accès qu'ils ont à l'éducation. La génération qui était là en 95, qui faisait la grève. Et puis, ça fait partie de ma chaîne de valeur, c'est l'accès à l'éducation. Je l'ai dit haut et fort en 95, je l'ai encore dit à la dernière grève. Et puis là, je suis encore ici parce que je trouve ça trop important.
Bien, moi, je suis rentrée au Cégep en 81, donc je suis rentrée pendant le Front commun. J'ai donc été plongée directement dans le bain. Donc, on est sortis en 82, en 83, occupation, ministère de l'Éducation, les pré-bourses, la loi sur les associations étudiantes. On a traversé tout ça.
Oui, j'ai fait la grève, effectivement, très souvent. Plus qu'il ne faut, même.
Comme étudiant, je pense qu'il y avait le Bill 63. Il me semble qu'il y a eu une grève sur la loi 101, avant la loi 101. Là, comme enseignante, ben, lorsqu'on négocie aussi, quand on veut créer un rapport de force, ben, ça arrive aussi qu'on on manifeste. Je trouve ça important que les gens sortent dans la rue.
À l'époque où il y avait des mouvements de grève étudiante importants, j'étais pas aux études, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans ce mouvement-là. Je les appuyais, j'étais à quelques manifs, mais j'aurais aimé, mais j'ai pas eu cette chance.
Je me rappelle de la coalition Y, donc à ce moment-là, c'est de cette manière-là que j'ai été sensibilisé, parce que pour être honnête, si j'avais pas participé à toutes ces discussions-là, j'aurais été probablement comme l'ensemble des citoyens un peu perplexe à dire ben, pourquoi pas, ils vont avoir un bon métier, ils paieront. Puis en étant plutôt présent dans les discussions, ben, ça a fait changer mon point de vue.
Il y avait une petite grève spontanée au secondaire, mais les frais étaient bien bas dans ce temps-là, on était bien gâtés.
Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas eu. J'ai étudié à un moment où on donnait une chance à tout le monde. Hein? Mais après coup, après mes études, oui, j'ai déjà participé à des grèves étudiantes.
Oui, en 78, j'étais au Cégep Sainte-Foy. Et d'ailleurs, j'ai fait un retour cette année aux études et je suis encore au Cégep Sainte-Foy.
Moi, j'ai rien contre l'anarchisme, au contraire. Je veux dire, j'étais là au sommet des Amériques, j'ai vu les Black Blocs manifester, j'étais à leur côté, si on veut, d'une certaine façon. Non, moi, je trouve ça tout à fait correct, effectivement, que les anarchistes soient là et manifestent. De toute façon, moi, je reste persuadé d'une chose, les trois quarts des manifs, dès qu'on voit que ça va friter un peu, de toute façon, on envoie les flics, on noyote par l'intérieur, et que si effectivement il y a quelques-uns qui ont envie d'en découdre, eh ben on va les forcer à en découdre de toute façon. La simple présence policière suffit de toute façon. L'agression, elle est déjà là en premier. Elle vient des flics en premier, et non pas des manifestants, quoi.
Ben, ça dépend des anarchistes. Je veux dire, quelqu'un qui casse une vitrine n'est pas nécessairement un anarchiste et vice-versa, en fait. Ce qui me désole un peu, c'est que des actions, mettons, violentes, comme d'affrontements contre les policiers, des fois, je trouve que ça peut nuire d'une certaine façon à la cause. Et les journalistes, toujours en quête de sensationnalisme, vont vraiment axer, alors ça va être les spots sur les actes violents.
Moi, je pense que plus la plateforme est plurielle, mieux c'est. À mon avis, quand on pose un geste citoyen comme celui-là, on doit pouvoir être inclusif avec des personnes qui sont d'origine et d'opinions différentes.
On est dans une société démocratique où tout le monde a le droit de s'exprimer, même les anarchistes. Et surtout, peut-être, eux autres.
Je préférerais que ceux qui veulent utiliser des approches anarchistes puissent le faire, mais qu'ils permettent à des gens qui veulent manifester dans un autre style puissent le faire aussi.
C'est sûr que je ne suis pas pour la violence et défaire tout là, quand il se passe une manifestation. Ces gens-là sont rendus à un point dans leur tête, peut-être qu'ils pensent qu'en détruisant des choses, c'est briser un peu la société et faire avancer des affaires. Bon, moi, je partage pas cette idée-là, mais non, ça me fait pas peur qu'ils soient ici aujourd'hui ou un autre jour. Ben, disons que je vais me tenir un peu loin tout de même, là. Ben, j'ai pas envie d'avoir un coup de matraque, tu sais, quand même.
Moi, pour ma part, là, il faut qu'il y ait des actions. Il faut faire bouger le monde, puis il n'y a rien que ça qui fait bouger. C'est parfait dans les médias. C'est juste qu'il y a un peu trop de casseurs, mais ça, il y en a qui aiment ça, là, qui exagèrent, là. Mais il n'empêche que, fondamentalement, si ça ne bouge pas en action, c'est bien beau, les actions qu'on dit pacifiques. Pour moi, c'est pacifique que de mettre devant une police, là, puis dire, hey, t'as pas d'affaire là, là.
Je pense que la diversité des opinions, la diversité des façons d'appuyer cette lutte-là sont toutes légitimes. Moi, je crois aussi à la diversité des tactiques. Je veux dire, c'est bien dommage quand il y a des agents provocateurs dans les... on parle pas des gens qui luttent vraiment, mais de gens qui sont là pour foutre la merde. Mais les anarchistes, en tant que tels, non, pas du tout.
C'est complètement une idée montée carrément par la police. On a juste à accéder à des vidéos moindrement là, sur l'Internet pour être capable de voir que c'est de la provocation pure et simple de la police elle-même. C'était comme ça en 95, puis c'est encore comme ça maintenant. Les policiers ont toujours intervenu de façon musclée quand il y a eu le temps d'avoir des manifs étudiantes, surtout.
Et voilà, merci au camarade Stéphane pour ce petit vox pop de la manif familiale du 18 mars dernier à Québec. Alors, vous avez remarqué, les opinions sont très intéressantes. C'est le fun un peu d'entendre ce genre de vox pop-là. Ça change un peu des médias traditionnels. On se rend compte de plusieurs choses. Hein. Les gens ils ont peut-être moins peur de l'anarchisme qu'on peut le penser à l'origine. Et puis, c'est ça. Stéphane tenait à rappeler, là, c'était important, qu'il avait pas fait de tri. Il a pas enlevé les réformistes, puis il a juste gardé les radicaux. Là. Il a vraiment gardé tout ce qu'il y avait. Et puis, il tenait aussi, Stéphane, à remercier la fanfare Tintanard qui réussit à transformer les manifs qui pourraient être un peu ternes en quelque chose de joyeux, de sympathique. Alors, merci. Puis d'ailleurs, je suis content que tout le collectif de l'atelier se joint sa voix à Stéphane là, pour dire merci, fanfare Tintanard. Sinon, bien, on va écouter une pièce. On va écouter, pourquoi pas, les Ogres de Barbac et les Hurlements de Léo qui vont faire la pièce La Gare de Caen. Et vous écoutez l'émission du collectif Anarchiste L'Atelier à CKIA 88.3.
Les petits gars de la garde de camp, les cicatrices dans la gueule. Les gars passent temps, essayons de faire méchant. Ne prendront pas ce train pour Saint-Lazare ou Guérin. Resteront goûter la bière à la consigne. Les petits gars de la garde de camp s'en foutent pas mal des passants. Ou alors c'est pour un franc du bal, un petit restaurant. L'amour ne fait pas représentant, alors ils tournent et tournent en rond. Remercie le flanc des gens pour leur tour de récréation. Les petits gars de la garde de corps sont accrochés en disant ni un dieu ni un maître mais à leur ami à quatre pattes symbole d'une génération reprenant cœur pour bon. Si tu ne mourras pas, anarchie la mode de corps. Tout ça pour les raisons bon vieux dicton des engins. Pas le fric, pas l'armée, pas le curé. Regarde le temps.
Alors pour un instant, il se dit c'est pas facile. C'est dire quand t'as plus de temps, alors ils remontent leur col et leur visage attendri. N'en laisse pas le verre moisi.
Voix de fer.
C'est nous, mange toi aussi, vite dans l'assiette, sinon pas de dessert. En pénitence dans ta chambre.
J'aime pas ça qu'il y a dans mon assiette.
C'est bon, c'est moi qui ai fait ça pour vous autres.
Et oui, si vous ne l'aviez pas compris, c'est toujours l'émission du collectif anarchiste L'Atelier. Deux fois plutôt qu'une, pourquoi pas. Si la grève se poursuit, les étudiants et étudiantes sont assurés de gagner. Ça veut dire ça, Jenny?
Oui, j'ai lu ça, oui.
C'est une lettre d'opinion qui est parue sur Internet. C'est un gars, je ne sais même pas c'est qui a signé ça. Donc, voilà, il va d'une explication assez simple, assez, comment je pourrais dire, avec des en quelque sorte, en calculant les risques et les pertes que le gouvernement peut faire, il montre à quel point c'est impossible au gouvernement de ne pas reculer à cause de la grève. Alors, je vais le citer. Il dit « Tout le monde a une opinion sur la grève, mais personne ne traite d'une question de fond. Que se passera-t-il si le gouvernement refuse de changer de position et que les étudiants et étudiantes ne retournent pas en classe? » La réponse doit en inquiéter certains, car si la grève se poursuit et prend de l'ampleur, les étudiants et étudiantes sont assurés de gagner. Parce que la grève engendre des problèmes organisationnels graves et coûteux dans chacune des institutions scolaires qu'elle touche, notamment au cégep, lorsqu'elle excède 5 semaines. Et c'est tout à fait logique, parce que à partir de mi-juin, si la reprise des cours dépasse cette date-là, les professeurs partent en vacances. Alors, comment on fait pour reprendre des cours si les profs ne sont plus là? Alors, les directions pourraient entreprendre certaines options, mais qui sont toutes problématiques et coûteuses. Par exemple, ça pourrait être possible de reprendre des cours le samedi. Imagine un peu, c'est un peu difficile à imaginer. On pourrait déplacer les vacances des profs. arrêter la session à la mi-juin et la poursuivre à la mi-août. C'est toutes des façons qui sont possibles théoriquement, mais qui sont coûteuses et qui sont difficiles à imaginer. Puis ça demanderait évidemment des ententes difficiles à négocier avec les syndicats locaux. Ça nuirait à la qualité de la formation. Et ça pourrait faire des gros problèmes. Alors que dans les universités, il faut penser que la majorité des facultés qui sont touchées devraient renégocier les contrats des chargés de cours pour voir finalement que ça serait extrêmement difficile à faire. À travers tout ça, il y aurait du blocage administratif, le problème de négocier les horaires des employés. Alors, les difficultés s'annoncent assez grandes pour, autrement dit, le gouvernement n'aura pas le choix d'un jour de négocier. Et ça, c'est pour les problèmes administratifs, si on veut, le cégep et l'université. Mais il y a un autre point intéressant à prendre en compte, c'est la main-d'œuvre. Hein, faut pas l'oublier. Les étudiants et les étudiantes forment de la main-d'œuvre bon marché pour la chaire à l'entreprise privée. Et une grève, ça voudrait dire le retardement de l'arrivée des finissants sur le milieu le marché du travail. Et par exemple, les cours techniques des cégeps, ils offrent un placement d'au moins 90% la plupart du temps. Alors, autrement dit, les entreprises ont absolument besoin de cette main-d'œuvre-là qui sort des cégeps. Et il n'y a personne qui le dit, mais ce sont les propriétaires des entreprises qui devraient actuellement de plus de faire pression auprès du gouvernement pour que la grève arrête, parce qu'ils ont absolument besoin de ces étudiants et étudiantes-là pour faire fonctionner la business. Et ça s'applique aussi aux emplois d'été qui vont commencer fin mai, début juin, et qui ne pourront pas être comblés tant que cela tant que les étudiants vont être en classe. Alors c'est pas nécessairement un problème des étudiants qui vont perdre un salaire, c'est bien plus un moyen de pression sur le gouvernement. Et le gouvernement, en s'entêtant à ne pas vouloir négocier avec les étudiants et étudiantes, va nuire ainsi au recrutement des entreprises, des municipalités, et ils vont handicaper la qualité de la formation, va retarder l'arrivée de nombreux étudiants à l'université et, grosso modo, créer de gros problèmes organisationnels dans les établissements scolaires. Et il ne faut pas oublier qu'à travers tout ça, évidemment, les étudiants et étudiantes ne sont pas passifs et passives. Et ils font beaucoup de perturbations, notamment des blocages de ponts. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de police, plus de gaz lacrymogène à acheter, plus de matraques. Alors, ça engage des coûts importants pour le gouvernement. Et évidemment, le gouvernement, à un moment donné, il n'aura pas le choix, donc, avec tout ça, de devoir négocier avec les étudiants et étudiantes. Et c'est... avec tout ça, c'est impossible donc d'annuler une session, même si le gouvernement il a beau dire que il a le beau jeu de brandir cette menace-là, mais c'est littéralement impossible.
Et il faut dire aussi que ça n'est jamais arrivé qu'il y a des sessions qui ont annulé suite à des voyages étudiants. C'est jamais arrivé dans l'histoire.
C'est ça. Il y a même des étudiants, des fois, qui le disent, « Mon Dieu, on pourrait se faire annuler la session. » C'est jamais arrivé. C'est important de le dire et de le répéter. Et... voilà. Et d'ailleurs, faut la seule façon, en fait, que les gouvernements pourraient forcer les étudiants et les étudiantes à rentrer en cours, ça serait avec l'armée. Mais bon, on s'entend qu'on n'est pas encore ici en Chine, là. On n'est pas encore rendu là. Ça serait surprenant que ça arrive.
Mais il y a quand même des étudiants de l'Université Laval qui avaient demandé à ce que l'anti-émeute vienne à l'Université Laval. C'est quand vous êtes université pour qu'ils aient accès à leurs cours, donc...
Eh oui!
On appelle, c'est carrément d'appel au fascisme, tu sais, quand t'es rendu là.
Il voulait réclamer l'anti-émeute pour forcer les blocages très fort. Et donc, le gouvernement, bon, il attend que la grève s'essouffle, mais actuellement, c'est pas ça vraiment qui est en train de s'arriver.
Il y a quand même à quelques endroits qui ont voté contre la grève, dont le cégep de la Abitibi-Témiscamingue au campus de Rouyn, on fait juste une semaine. Mais pourtant, la grève à 2005, la grève à 2005, il n'est pas affilié à la FEC, il a fait 3 semaines. Puis là, ils sont affiliés à la FEC, ils ont fait une semaine. Donc, est-ce qu'il y a un lien à faire? Peut-être.
Bon, c'est pas, hein? Mais toujours est-il que si le mouvement continue dans cette voie-là, c'est-à-dire, mettons, par exemple, le samedi prochain, ils vont rejoindre les travailleurs à Alma, il n'est pas exclu que le mouvement prenne de l'ampleur, tu sais. Bon, on peut toujours le fantasmer, qui sait. Ça reste encore à voir. Mais si les étudiants et étudiantes persévèrent encore quelques semaines, le gouvernement n'aura pas le choix d'aller à la table des négociations. Et bon, on va écouter une pièce et puis on va revenir après pour les nouvelles internationales et on va écouter une pièce qui s'appelle... Ah, c'est une pièce des VRP qui s'intitule... Ah, non, c'est bon, Jenny va nous présenter une pièce.
Une pièce de Jeunesse Apatride, je pense qu'il y a vraiment des circonstances, unité, combat et victoire.
Et vous écoutez l'émission Voix de fait. We'll be right back. Et voilà, on est de retour à Voix de fait. Et maintenant, on se dirige vers le bloc d'actualité internationale.
Oui, bien, une nouvelle locale, puis deux nouvelles internationales par la suite. La nouvelle locale, c'est le nouvel archevêque de Montréal qui est bon ami des gays, puis qui est aussi contre l'avortement, puis misogyne, puis bon, la bonne vieille cassette chrétienne. Le pape Benoît XVI et Benoît XVI a nommé Monseigneur Christian Lépine, l'archidiocèse de Montréal, excusez, en remplacement du cardinal Jean-Claude Turcotte, démissionnaire après 22 ans d'exercice de ses fonctions. Bien, il est rendu trop vieux, rendu 75 ans, puis rendu 75 ans, il prend sa démission, puis il remplace. La nomination du nouvel archevêque âgé de 60 ans ne semble guère être un prélude à l'ouverture, parce que Mgr Christian Lépine a montré par le passé une certaine indulgence avec les thérapies contre l'homosexualité. Comme, c'est ça, du monde qui considère que c'est une maladie mentale, ça peut se guérir. Là. On trouve beaucoup de choses aux États-Unis, mais on dirait que c'est l'infection est rendue ici. le cardinal Jean-Claude Turcotte, c'est ça, ben, c'est beau. Pour la remplacer, le pape a annoncé la nomination de Christian Lépine qui avait fait évêque auxiliaire de Montréal l'année dernière. Ordonné prêtre en 1983, le travailleur au service du Vatican en 1998 et 2000, Christian Lépine a également été curé des paroisses Notre-Dame-des-Champs et écoutez bien l'annonce des paroisses-là, purification de la bienheureuse Vierge Marie à Repentigny. Ça prend du souffle pour nommer cette paroisse-là, mes amis, je pouvais être sûr. Par ailleurs, enseignant et directeur du Grand Séminaire de Montréal et enseignant vie chrétienne et sexualité, un peu bizarre de mettre les deux ensemble, en tout cas. Dans la description de ce cours, il était question à travers l'étude de l'écriture et de la tradition chrétienne, la bonne vieille Bible, d'éclairer la moralité de certains agirs humains, la masturbation conjugale, régulation des naissances, relations sexuelles hors mariage, homosexualité et pédophilie. Donc c'est ça, il enseignait ça.
Ça, Janie, c'est la nomination de Lépine, c'est un coup de piston de Ouellette, là, l'autre là, qui était comme pro-choix.
Ah oui, les Ouellette, là, regarde, là, c'est un fasciste en soutane. Mm. C'est, pas
c'est à cause de lui qu'on a Lépine, qu'on a hérité de cette espèce de weirdos-là.
Ouais. Ben, en octobre 2009, Christian Lépine accueillait Michel Lizotte dans son église Notre-Dame-des-Champs. Ce militant de thérapie de conversion et cofondateur du groupe Ta vie, ton choix. C'est un peu bizarre, parce que l'homosexualité n'a pas le choix. Proposer 3 jours de conférence intitulée « Aider mon enfant à développer son potentiel hétérosexuel ben, ». Oui. Puis face à cette idée-là, le futur chevalier de Montréal avait été contraint de faire écourter cette formation. Donc, dans le fond, ça avait été sorti dans les médias. Ça avait fait un gros tollé à l'époque, une chance d'ailleurs, parce que ça n'a quand même pas vraiment de bon sens. Un peu encore sur le même thème, l'homosexualité, une autre mauvaise nouvelle qui arrive de Russie. C'est Saint-Pétersbourg qui a un projet de loi homophobe qui a été définitivement adopté. La troisième lecture, c'est mercredi, du texte interdisant la promotion de la sodomie, du lesbianisme, de la bisexualité et du transgendrisme. Les gens qui sont transgenres, a été suivi par un vote favorable des membres de l'Assemblée législative de la deuxième ville de Russie, qui vise beaucoup sur le tourisme. Paradoxalement. Le climat homophobe ayant empoisonné les discussions de ces derniers jours fait craindre le pire aux militants GLBT. 29 voix pour, 5 contre, une abstention. Les députés de Saint-Pétersbourg ont largement voté en faveur du projet de loi homophobe qui défrait la chronique depuis plusieurs mois. Là, il y avait eu des pressions de la part de la diplomatie américaine qui disait déplorer cette initiative entravant les libertés fondamentales des milliers d'individus, mais ni les pressions de Washington ni celles d'organismes comme l'Amnesty International n'ont pu changer la donne. En novembre dernier, le texte avait été présenté en première lecture devant le Parlement local, puis une deuxième fois au début du mois de février. Il y avait comme eu des tollés, il avait retiré, puis l'ont remis, puis c'est une bonne vieille tactique souvent qui est employée. Russie unie, le parti présidé par l'actuel président russe Vladimir Poutine, favori pour la prochaine élection présidentielle, le poste qu'il a déjà occupé de 2000 à 2008. En fait, il a fait un switch avec
Medvedev,
puis là, il revient comme... porte ces législations homophobes qui prévoit que toute personne faisant publiquement bon la promotion de sodomie comme j'ai dit tantôt auprès des mineurs sera condamné à une amende allant jusqu'à 300 roubles. Ça équivaut à 103 $ canadiens.
Oh là là.
Le montant peut aller jusqu'à 50 000 roubles. Ça équivaut à 1 700 $ canadiens pour les organisations GLBT. Mais, tu sais, on regarde les montants, c'est pas si grave que ça, mais c'est le principe aussi, tu sais. Mm. Là, mettons, ils pourront pas faire de manifestations contre l'homophobie ou des marches de fierté ou des affaires comme ça, parce que...
Ils sont passibles d'une amende, carrément.
C'est même, là, il y a pas personne qui pourrait faire évoquer Tchaïkovski, un des plus grands célèbres compositeurs russes, parce qu'il est homosexuel. Donc là, tu peux même pas parler de Tchaïkovski à Saint-Pétersbourg parce que c'est juste de pogner la menthe. C'est aussi clair que ça. Les militants, ils voient une menace sérieuse contre l'existence même des manifestations GLBT comme la marche de fierté. Illustration du climat délétère. Là, c'est un article français que je suis en train de lire, puis je ne sais même pas ce que ça veut dire délétère. Que la communauté doit affronter les débats ayant précédé l'adoption définitive du texte et donné lieu à des débordements. Selon The St. Petersburg Times, qui se base lui-même sur le récit de l'organisme Coming Out, le député Vitaly Milonov, auteur du projet de loi, était venu accompagné d'homophobes lors d'une réunion ce mardi. L'un d'eux a abordé un t-shirt portant l'inscription « Orthodoxie ou la mort », c'est comme assez, assez clair. Tandis que la foule criait « Vous n'êtes pas des êtres humains » à l'encontre des militants GLBT présents dans la salle. Puis aussi un militaire de Saint-Pétersbourg, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, je n'ai pas le nom, mais il disait que c'était des sous-hommes qu'il fallait traiter par l'isolement, la fin de même. On croirait entendre des nazis. Ces derniers dénoncent le populisme du projet de loi, un leurre qui serait utilisé par Russie Unie, pour détourner l'attention alors que Vladimir Poutine et son parti sont accusés de corruption et de trucage suite aux élections législatives de décembre 2011 qui ont été rapportées par la forme du pays. Après son adoption ce mercredi, le texte doit prochainement être signé par le gouverneur de Saint-Pétersbourg, je dirais pas son nom parce que je serais incapable, avant de donner une loi à part entière. Donc, dans le fond, il reste juste... D'après moi, ça devrait être adopté, si c'est pas déjà fait, dans le fond, là, fait que... Très mauvaise nouvelle pour la Russie. Tu sais, dans le fond, au début, je me demande quasiment si c'est pas à cause de l'influence des néo-nazis qui sont en Russie ou si c'était vraiment imprégné tellement des élites que ça part, en tout cas. Non, ça serait pas un lien à faire, mais en tout cas, l'homophobie puis la xénophobie en Russie, ça a l'air d'être très, très implanté. Là. Ça fait assez dur, merci. Même si Hitler disait que les Slaves étaient des sous-hommes, en tout cas, bref. Berlin qui veut interdire le parti néo-nazi MPD, c'est la seule bonne nouvelle de la semaine, ben dans mes nouvelles. Plusieurs ministres des Länder allemands constituent un dossier dans le but de proscrire le parti NPD, ennemi de la Constitution selon eux. Encore MPD n'a pas confondre avec l'MPD au Canada, là, c'est pas enfin, bon, les ministres de l'Intérieur de Länder allemands ont annoncé jeudi soir qu'ils vont tenter de constituer un dossier visant à faire interdire le parti néo-nazi. MPD, qui justement est considéré comme un parti ennemi de la Constitution. Nous voulons lancer une procédure d'interdiction qui aboutisse. Et c'est pourquoi nous devons maintenant rassembler des éléments pour obtenir des preuves présentables devant la Cour constitutionnelle étayant le caractère fondamentalement hostile et belliqueux du NPD, a déclaré le ministre fédéral de l'Intérieur, Hans-Peter Friedrich. Monsieur Friedrich et ses homologues des 16 Länder réunis à Berlin ont décidé de retirer tous les agents des services allemands de renseignement intérieur, non, je dirais pas non, je parle pas allemand, infiltrés au sein des structures dirigeantes du NPD d'ici au 2 avril. Donc, enfin, il y avait des infiltrations au sein du parti même. Cette mesure était un préalable absolu à toute procédure contre le parti, dans la mesure où la Cour constitutionnelle avait rejeté une première demande en 2003, justement en raison de l'omniprésence des agents du service de renseignement intérieur à la tête du parti. Nous ne pouvons nous permettre un échec, c'est pourquoi il est temps de nous montrer pointilleux et mesurés. Puis en fait, les ministres se sont donné 6 mois pour rassembler des éléments. Ils ne se prononceront visiblement pas avant décembre sur le dépôt d'une demande formelle d'interdiction du parti d'extrême droite. Fin 2011, l'Allemagne avait découvert avec stupéfaction qu'une organisation criminelle d'extrême droite, la cellule de Zwickau, une ex-ville d'ex-RDA, inconnue jusqu'alors et composée de gens profs du NPD, était probablement responsable d'au moins 10 meurtres en 2000 et 2006 pour l'essentiel c'est des personnes d'origine turque. Je pense, en fait, j'en ai parlé sur l'émission, pour donner l'émission au début de la saison, en tout cas. Le NPD existe depuis 1964 et a donné 1,5% des suffrages aux dernières législatives à l'automne 2009. Il n'a jamais siégé au Bundestag, la chambre basse du Parlement, dont l'accès est conditionné à un seuil de 5% des suffrages, mais solidement implanté dans l'ex-Allemagne de l'Est. C'est souvent comme ça, en fait, que c'est surtout dans les milieux pauvres puis les milieux qui sont plus défavorisés qui n'occupent socialement que les néo-nazis vont s'implanter, parce que là, ils vont dire au monde, c'est à cause de ça que ça va mal, puis au lieu de
pas choisir. Il y a des solutions faciles à
ouais, c'est ça.
Compliquées. Ouais.
C'est ça.
Donc, ben, qui sait, donc le parti NPD qui sera interdit en Allemagne, peut-être que le FN sera le prochain en France, on sait pas.
On sait pas, mais parti comme c'est là, on dirait bien que non, avec toute la controverse de la viande halal qui a été repris par la partie québécoise. C'est ça quand même, ben oui. Quand même de répéter, là.
Oui.
Tu sais, le PQ a fait du chemin sur une controverse qui est née de l'extrême droite française. Je pense que ça en dit long sur. Je suis pas en train de dire que le PQ c'est un parti fasciste, mais devraient des fois faire attention d'où ce qu'ils prennent leur controverse. Ben,
ils jouent la corde identitaire, qu'on appelle, là, tu sais.
Quasiment comme la DQ faisait à une certaine époque, là. On s'en dit, c'est le PQ qui le fait, c'est-à-dire.
Exactement. Donc, voilà, c'est tout pour ce bloc-là. On va écouter une pièce musicale et on revient après pour la fin de l'émission et puis le calendrier des activités militantes. On va écouter une pièce qui s'appelle, une vieille pièce de Two Stone Two Skank qui s'appelle Au nom du capital.
Fait, madame.
Et voilà, on se dirige vers la fin de cette émission extraordinaire qui s'appelle Voix de fait du collectif anarchiste L'Atelier. Calendrier militant, demain, 13h, manifestation devant l'Assemblée nationale, donc dans la lignée de la grève étudiante. Après ça, mercredi prochain, 28 mars, il y a Julie Chanteauvert qui va être à l'agité pour, dans le cadre des mercredis agités. Ça va être le sujet, ça va être la pornographie éthique et féministe. Donc, il y a pas ça du post-porn féministe. Alors, ça va être quelque chose à voir. Ça risque d'être intéressant. Sinon, il y a aussi le cabaret du 1er mai qui recherche des participants et participantes. On vous offre 5 minutes dans une salle surchargée de monde. Alors, faites-nous savoir votre intérêt. Il y a aussi le week-end de l'anarchie à Québec qui va avoir lieu du 24, 25, 26 mai prochain. Si ça vous tente de participer ou de proposer un atelier ou une conférence ou un discours ou je sais pas, une lecture de poème, je ne sais pas, écrivez-nous à ucl.quebec@causecommune.net. Sinon, vous pouvez aller voir sur notre blog voix de fait avec un xes.blogspot.com. Toute l'information est là. Sinon, ben évidemment, on vous invite à acheter la carte de membre de Sequoia. C'est actuellement la campagne de membership. Vous avez juste, vous pouvez même le faire maintenant sur Internet. Allez sur sequoiafm.org et puis vous allez trouver le lien pour le faire. Sinon, ben il reste une minute. J'ai tout le temps de lire. Oui, je vais prendre le temps de lire le super poème parce que c'est Luciel maintenant se dirige à faire un recueil de poésie qui va être disponible au Salon du livre anarchiste. Alors, je vais lire le poème qui s'intitule « Monsieur le ministre ». Voici venir, en cet hiver, ce grand parlementaire. Le nez dans le vent dans la face dans ses cheveux sous son chef en cavale, en son esprit parti pour la gloire nationale. Une bourrasque lui arrache la tête, et une chauve-souris se pose, en plein sur son chef sans possession. Simple comme l'aisance d'un cabinet surchauffé, car si assoit le parlementaire, ce ministre des Arts et des Lettres, qui ne sait pas écrire son nom, en tout honneur et vérité, sans commettre de faute de frappe, l'accent contraire au sens commun, toujours à la recherche d'un éléphant blanc à domper dans la cour du voisin. Et c'est de Lee.